Bonjour, aujourd'hui nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, la presse. Au programme, perdre les pédales, déprimer ferme et oser rire. Un enfant de la DPJ qui a réussi et qui veut redonner. Et si la colocation c'était pour vous aussi? Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète de la situation en Haïti. Bonne écoute.
Perdre les pédales, déprimer ferme et oser en rire, un texte de Sylvia Galipo, paru le 8 mai 2023, dans la presse. Manu, 36 ans, est une mère comme il en existe tant. Un jour, comme tant d'autres avant elle, épuisée de courir après sa queue, prisonnière d'une vie qu'elle n'a pas exactement choisie, elle craque. Récit connu. Pas tout à fait. À côté de la traque, dernier roman de Karine Glorieux, Mademoiselle Tic-Tac, publié ces jours-ci chez Québec Amérique, s'inscrit certes dans la foulée de plusieurs autres textes sur la grande fatigue des femmes. Une tendance lourde et pas exactement joyeuse, on pense à « About » de Véronique Grenier ou « Au pays du désespoir tranquille de Marie-Pierre Duval, que l'autrice aborde toutefois avec un angle audacieux, l'humour. Quand elle a proposé le projet à son éditeur, Karine Glorieux l'a même vendu comme telle. C'est une comédie sur le burn-out. Effectivement, on rit beaucoup en lisant les mésaventures de cette mère parfaitement imparfaite, écartelée entre son surmoi échevelé et son pendant wannabe zen. Elle gaffe, boit trop et gaffe de nouveau, et pas à moitié. Mais plusieurs aspects de sa dérape, ses questionnements sur la charge mentale des femmes, pourquoi la dépression touche-t-elle deux fois plus les femmes que les hommes, et son cri du cœur sur sa fatigue, sonne un peu trop juste pour ne pas avoir un solide fond de vrai. Oui, je suis fatiguée, dit la narratrice, fatiguée d'être mère seule, travailleuse autonome, bûcheuse acharnée mais slaqueuse dans l'âme, et de constater que mon visage se fripe un peu plus à la fin de chacune des journées que je n'ai pas vues passer. Le tabou de la dépression. Karine Glorieux, à qui l'on doit le collectif « Ma première fois », qu'on a interviewé assez souvent pour savoir qu'elle court des demi-marathons comme la Manu de son roman, mais sans doute pas assez pour connaître les dessous de sa santé mentale, confirme. « Ce n'est pas mon histoire, dit-elle, mais il y a des bouts qui sont très vrais. Elle n'est ni mère seule, ni travailleuse autonome, elle enseigne la littérature au cégep. Mais oui, Karine Glorieux a elle aussi vécu une véritable crise de panique il y a quelques années de cela. Elle aussi, elle a souffert d'un trouble de l'adaptation et d'abord refusé de se soigner. Ah oui, et elle aussi, elle est partie sur un nowhere, voir ailleurs, si elle y était, en Floride, en voiture et sur un coup de tête. Et non, elle n'en avait encore jamais officiellement parlé. Pourquoi, au juste? Parce que le tabou, parce que la stigmatisation, d'autant plus quand on a un parent qui est passé par là. Je m'étais toujours dit, moi, ça ne m'arrivera jamais, confie-t-elle. Et quand ça m'est arrivé, j'avais une certaine honte, une difficulté à en parler. Difficulté qu'elle a surmontée en voyant ses enfants grandir et devenir adultes à leur tour. C'est le livre que j'aurais voulu quand j'étais en dépression. J'aurais voulu qu'on me le dise. « Hey, c'est correct, tu vas passer à travers, et tu peux même en rire. » Et elle ose en rire, tout au long des 243 pages du récit, riche en rebondissements de toutes sortes. Rire permet d'avoir une distance par rapport à une situation, dit-elle. Et on peut rire de presque tous les sujets. Ellipse. Avoir de l'autodérision, c'est un premier pas vers la guérison. Ah bon? Quand on peut se moquer de soi-même, on peut prendre les choses plus à la légère et décider de les changer. Et Karine Glorieux sait de quoi elle parle. C'est ça, le burn-out. Tout prend énormément d'importance, même les choses les plus anodines, illustre-t-elle. Plier le linge devient aussi important que de soigner un père malade. Rire donne la possibilité de se dire « peut-être que ce n'est pas si important ». Et ce ton domine aussi tout le texte. D'ailleurs, elle ne le cache pas. C'est un roman que je voulais optimiste. Dans la quête existentielle de sa Manu, à la recherche de qui elle était jadis et de ce qu'elle a perdu avec la vie, les années et la maternité, plusieurs liens importants ressortent. Avec ses enfants, évidemment, mais aussi ses parents, ses amis et une rencontre avec une femme plus âgée, tout particulièrement formatrice. Et ces liens sont super importants. Et nous, les femmes, on est bonnes pour les créer. Pas moralisatrice pour deux sous, Karine Glorieux tenait tout de même à ce que sa Manu finisse par se retrouver, et ce, notamment grâce à ses médicaments. Elle prend ses maudits antidépresseurs, oui, conclut-elle. Elle est capable de s'en sortir, mais pas toute seule. Et c'est correct d'avoir de l'aide. Qu'on se le dise et qu'on en rie. C'était « Perdre les pédales, déprimer ferme et oser en rire », un texte de Sylvia Galipo, paru le 8 mai 2023 dans la presse.
Un enfant de la DPJ qui a réussi et qui veut redonner. Un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 1er mai 2023 dans la presse. Martin McNicol est devenu un enfant de la DPJ à 13 ans, lorsqu'il a été placé dans une famille d'accueil à la suite du divorce de ses parents. Ce sera la première d'une enfilade de 4 foyers différents jusqu'à ses 17 ans, lorsqu'il peut emménager dans un appartement supervisé. Il a connu la stigmatisation de l'abandon. Il aurait pu ne jamais s'en sortir. Il est pourtant devenu un entrepreneur à succès qui veut que l'on encadre mieux les enfants délaissés du Québec. À 55 ans, Martin McNicol affiche une assurance bien assumée. Il a vendu à fort prix l'an dernier l'entreprise Gourou Solutions, qu'il a fondée en 2005 et qui est spécialisée en implantation de systèmes et de solutions infonuagiques. « J'ai fait un DEC en électronique avant d'obtenir mon diplôme d'ingénieur en automatisation à l'ETS. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai été embauché comme programmeur par Accenture pour faire des implantations de systèmes partout dans le monde. Je suis devenu manager en architecture technologique, puis je suis revenu à Montréal pour travailler 3 ans chez CGI avant de lancer mon entreprise. On est devenu partenaire de NetSuite qui est devenu Oracle, raconte l'entrepreneur. Gourou Solutions s'est vite développé auprès de clients américains qui appréciaient sa rapidité d'exécution. L'entreprise qui employait plus de 100 personnes, programmeurs, analystes d'affaires, gestionnaires de projets, était très profitable lorsque la société française Allen Allman Associates l'a sondée l'an dernier. « Je ne voulais pas vendre. Ils sont revenus et j'ai encore refusé. Ils m'ont alors demandé combien je voudrais. Je leur ai dit un chiffre et ils ont accepté. Je reste comme président pour quelques années pour assurer la transition, dit Martin McNicholl. Le fondateur de Gourou avait déjà pris un peu de distance puisqu'il avait nommé un chef de la direction pour se consacrer à sa nouvelle passion, la fabrication de whisky. Il a fondé la distillerie des Cantons de l'Est. Il a acheté une terre de 70 hectares près de Mansonville pour commencer cette année la culture du seigle et de l'orge. Il entreprend prochainement la construction de la distillerie et de deux silos tout en faisant l'acquisition de tracteurs, d'une moissonneuse-batteuse, de cuves et d'alambics. C'est un projet de 10 millions. On va faire le meilleur whisky au monde. On va planter cette semaine des pruniers pour éventuellement faire des liqueurs. On va aussi planter des chênes pour pouvoir faire dans 50 ans nos propres barils, planifie-t-il. La Fondation des jeunes de la DPJ. Martin McNicholl s'estime chanceux. S'il a réussi à passer à travers une jeunesse difficile, c'est parce qu'il était bon à l'école et qu'il a appris la discipline chez les cadets et dans l'armée à titre de réserviste pour le Royal 22e Régiment. Quand je me suis retrouvé à 13 ans en famille d'accueil, j'étais dans les cadets et j'y suis resté. Ça m'a donné un encadrement. Après, j'ai suivi le cours d'officier de l'armée. J'étudiais et je travaillais pour l'armée durant l'été. J'aurais pu sortir du circuit comme beaucoup d'enfants de la DPJ. C'est difficile de te grounder quand tu n'as pas de réseau social. Les familles d'accueil, c'est souvent transactionnel. Tu n'as rien sauf ta valise en dessous de ton lit, évoque-t-il. C'est ce qui a amené l'entrepreneur à s'impliquer auprès de la Fondation des jeunes de la DPJ en rejoignant, il y a 4 ans, son conseil d'administration et en réalisant, il y a 2 semaines, un don de 100 000 $. Il s'agit du plus gros don individuel jamais fait depuis la création de la Fondation en 1998. Le sujet a encore fait les manchettes récemment. Le tiers des enfants de la DPJ qui quittent leur famille d'accueil ou un centre jeunesse à l'âge de 18 ans vont vivre un épisode d'itinérance. Chaque année, il y a plus de 2000 enfants qui vivent cette étape de transition au Québec. C'est donc plus de 600 jeunes de 18 ans qui se retrouvent à la rue, souligne Marie-Hélène Vendette, directrice du développement philanthropique à la Fondation des jeunes de la DPJ. L'organisme vient en aide à ces jeunes pour des besoins ponctuels, tels que de leur assurer un mentorat, payer un cours d'appoint, les aider à emménager dans un logement. Le budget de la Fondation est de 2,5 millions, mais les besoins sont beaucoup plus grands. On vit en situation de pénurie de main-d'œuvre et on tolère que ces jeunes se retrouvent à la rue. Je souhaite que mon don serve à les soutenir dans cette transition. On a donné récemment des cartes cadeaux à des jeunes qui quittaient leur famille d'accueil et ce qu'ils demandaient, ce n'était pas des cartes pour Apple, mais des cartes d'épicerie ou de pharmacie. Leurs besoins sont fondamentaux, constate Martin McNicholl. Il y a en ce moment 43 000 enfants qui sont pris en charge par des familles d'accueil ou sont dans des centres et la DPJ reçoit chaque année plus de 132 000 signalements d'enfants victimes de sévices. Un nombre plus grand que celui des naissances annuelles au Québec, m'explique Marie-Hélène Vendette. Quand je parle aux jeunes, je leur explique que ma mesure du succès, c'est lorsque je rentre à l'épicerie et que je peux remplir le panier et le payer sans que ma carte soit refusée. Encore aujourd'hui, j'ai cette peur, alors que je pourrais acheter l'épicerie en entier, imagine Martin McNicholl. C'était un enfant de la DPJ qui a réussi et qui veut redonner. Un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 1er mai 2023 dans la presse.
Et si la colocation, c'était pour vous aussi? Un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 18 mars 2023 dans la presse. Avez-vous déjà rêvé de vivre un jour avec vos amis dans un immeuble où vous auriez chacun chacune votre appartement? Vous rêvez peut-être de souper ensemble une fois par semaine, d'avoir une grande cour où pourraient s'amuser les enfants que tout le monde participerait à surveiller? Je suis heureuse de vous l'apprendre, vous rêvez de vivre en communauté intentionnelle. Gabriel Onctil sait rendre son mode de vie attirant. Cet extrait est tiré de son essai « Logé à la même adresse » paru le 15 mars 2023 aux éditions XYZ. La journaliste y aborde les joies et défis d'habiter avec de nombreuses personnes. Mais on est loin des clichés de colocation étudiante, ici. Gabriel et ses 7 colocs partagent tout de manière équitable. L'espace, les comptes, la nourriture, les objets, comme les décisions. Vivre en communauté intentionnelle, c'est choisir de s'entourer de gens avec qui on partage des valeurs, mais aussi des ressources. Ce mode de vie différent est un contrepoids à la précarité financière, à l'isolement, à la crise climatique et au difficile accès au logement qui caractérise notre époque, estime Gabriel Onctil. Plus encore, il serait agréable. Concrètement, les 8 adultes de 28 à 36 ans habitent dans 5 appartements voisins qui forment la cafétéria. Chacune des unités a des aires collectifs, chambre d'amis, gym ou salle de lavage, par exemple. L'appartement au rez-de-chaussée duplex dans lequel se déploie la majorité de la cafétéria comprend un grand salon et une cuisine commune. C'est là que j'ai retrouvé Gabriel et 4 de ses colocataires pour un de leurs soupers de groupe. 2 fois par semaine, 2 personnes ont la tâche de nourrir toutes les autres, lunch du lendemain inclus. La charge mentale et ménagère s'en trouve répartie sur toutes les épaules. Le rêve. Mais bon, devoir laver des chaudrons format X large dans un évier de taille ordinaire, ça, c'est un peu moins le rêve. Ce mardi-là, Max et Claudel avaient préparé des bols de riz au tofu magique. J'en ai profité pour me régaler et pour tenter de comprendre à qui s'adresse ce mode de vie. Beaucoup de gens croient que ce n'est pas pour eux, mais les sacrifices que ça prend sont moins grands qu'ils le pensent, répond d'emblée Gabriel Onctil, qui a cofondé la cafétéria et qui y réside depuis 14 ans. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'apprentissage, surtout des apprentissages d'intelligence émotionnelle. Ça exige d'être explicite par rapport à ce que tu as envie de faire et on n'est pas toujours très bon là-dedans. Il faut savoir non seulement exprimer ses besoins, mais aussi se remettre en question quand on empiète sur ceux des autres. Des fois, on se fait dire qu'on a fait quelque chose tout croche et on doit l'accepter. Ce n'est vraiment pas facile, mais c'est une compétence essentielle que tout le monde devrait développer, à mon avis, dit Gabriel Onctil. On devine que vivre en communauté intentionnelle exige une certaine maturité et beaucoup de flexibilité. On a un peu moins de droit de regard sur la déco ou sur ce qui traîne, admet Max, qui loge à la cafétéria depuis 5 ans. Il y a des compromis à faire, mais ça t'apporte plus que ce que tu peux penser. Il y a tout un réseau qui se construit autour de toi. Justement, est-ce qu'habiter avec autant de gens ne gruge pas l'énergie? Anaïs, locataire depuis 4 ans, me corrige. Pour elle, vivre en communauté intentionnelle est la parfaite stratégie pour créer des relations. Je suis très introvertie et je passe beaucoup de temps chez moi. Si je veux rencontrer des gens, le mieux, c'est que les gens soient chez moi. Dans « Loger à la même adresse », Gabriel Onctil cite d'ailleurs des recherches qui démontrent que ce mode de vie sied particulièrement bien aux introvertis. En la lisant, on comprend qu'il est aussi une option intéressante pour les éco-anxieux. Je la cite. Plus de 80% de la population canadienne vit en ville, selon Statistique Canada 2018. Pour faire face aux problèmes de l'avenir, il faut repenser notre manière de partager cet espace restreint, sans contribuer à l'étalement urbain. Elle poursuit en expliquant que la cafétéria utilise 2 machines à laver pour 5 logements, qu'il y a ici des gens qui savent à peu près tout réparer, vélos comme petits électros, et que la nourriture est achetée en vrac, ce qui réduit les emballages. Alors que les maisons sont toujours plus grandes, sa gang opte pour une manière de vivre qui lutte contre les défis auxquels on fait collectivement face. Normal, donc, que l'idée fasse de plus en plus jaser. Pourtant, elle est loin d'être neuve, comme le souligne Gabriel Anctil dans son essai. Bien avant les hippies ou les communautés religieuses, des gens se sont regroupés pour vivre selon leurs propres idéaux. En fait, la première communauté intentionnelle connue dans le monde occidental remonterait à 525 avant notre ère. Alors, comment expliquer qu'on associe seulement ce mode de vie aux étudiants aujourd'hui? Les colocataires s'enflamment en entendant ma question. La pression de la monogamie, l'idéal de la famille nucléaire et les chemins tracés d'avance qui nous mènent directement vers le quotidien à deux sont tous cités comme coupables. Ça prend du culot pour choisir une autre voie, mais pour le groupe, ça se révèle payant. Je suis habitué de vivre dans de grosses colocations, mais il y a quelque chose de plus ici, me dit Claudel, une volonté de vivre et de construire quelque chose ensemble. Parlant de l'attention qui est portée aux autres, le prix de la meilleure réplique du souper revient à Marianne, qui vit à la cafétéria depuis une décennie. On aime dire que c'est comme si on était en relation polyamoureuse avec tous les gens de la cafétéria. Charmant et important, tout ça. C'était « Et si la colocation, c'était pour vous aussi ?» un texte de Rosémée Autonne T. Morin, paru le 18 mars 2023 dans la presse.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète de la situation en Haïti. Un texte de l'Agence France-Presse, paru le 8 mai 2023 dans la presse. Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit, lundi, très inquiet de la détérioration de la situation en Haïti, gangrénée par la violence des gangs, prenant toutefois simplement note de l'appel répété du secrétaire général à envoyer une force internationale. Les membres du Conseil de sécurité sont très inquiets concernant la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti, ont-ils indiqué dans une déclaration publiée lundi. Ils condamnent, dans les termes les plus forts, l'augmentation de la violence, les activités criminelles et les violations des droits de l'homme qui sapent la paix, la stabilité et la sécurité pour Haïti et la région. Citant notamment enlèvements, violences sexuelles, trafic d'êtres humains, exécutions extrajudiciaires et enrôlement d'enfants dans les groupes armés, le Conseil appelle à ce que les responsables de ces crimes abjects soient traduits en justice. Il souligne également son propre rôle dans le cadre du régime de sanctions mis en place en octobre pour cibler les chefs de gang. Mais ces sanctions ne visent pour l'instant qu'une personne, Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue. Dans ce contexte, les membres du Conseil de sécurité prennent note du dernier rapport du secrétaire général Antonio Guterres dans lequel il répétait son appel à envoyer une force armée spécialisée internationale, mais non onusienne, pour aider la police dépassée à rétablir l'ordre. Soucieux du besoin de soutien pour la sécurité, ils appellent à nouveau tous les acteurs politiques à s'engager dans des négociations constructives et significatives pour permettre l'organisation d'élections législatives et présidentielles inclusives, libres et justes, dès que les conditions seront remplies. Alors qu'aucune élection n'a eu lieu depuis 2016 et que le Premier ministre, Ariel Henry, nommé seulement 48 heures avant l'assassinat du dernier président Jovenel Moïse en juillet 2021, fait face à des questions sur sa légitimité, certains experts jugent impossible de tenir des élections dans de telles conditions sécuritaires. Mais plus de 6 mois après l'appel à l'aide du Premier ministre, relayé par Antonio Guterres, aucun pays ne s'est porté volontaire pour prendre la tête d'une force internationale en Haïti. Le mois dernier, la nouvelle émissaire de l'ONU pour Haïti, Maria Isabel Salvador, a estimé qu'il était peut-être le moment pour l'ONU d'être novatrice, évoquant notamment une force d'intervention qui pourrait être composée de policiers et non de militaires. Le Conseil de sécurité s'est d'autre part inquiété lundi du trafic d'armes vers Haïti qui alimente la violence des gangs et a souligné le besoin urgent d'interdire le transfert d'armes vers des acteurs non étatiques engagés ou soutenant les violences des gangs, les activités criminelles ou les violations des droits de l'homme dans le pays. C'était le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète de la situation en Haïti, un texte de l'Agence France-Presse, paru le 8 mai 2023 dans la presse.
Trouvez cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vusezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche, André Lebeau et Robert Chartier à la lecture, Diane Métaillé et Francine Thériault à la recherche, Aya Jennifer Rando à la présentation et Nicolas Swartman au montage.